VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 octobre 2021, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, 6 militaires tués lors d'une attaque dans la région de Tillabéri.
Des représentants de nombreux pays étrangers présents ce jeudi à Tripoli pour une conférence de soutien à la stabilité de la Libye.
Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame l'arrêt de la violence et du pillage des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC.
Au Soudan, manifestation ce jeudi à l'appel de partisans d'un pouvoir civil.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Niger, 6 militaires ont été tués hier dans une attaque contre le convoi d'un préfet dans la région de Tillabéri, proche du Mali. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Selon plusieurs sources, c'est aux environs de 15h temps universel ce mercredi que l'attaque s'est produite. Il s'agit, selon ces sources, d'hommes armés de fusils et de lance-roquettes sur des motos qui ont ouvert le feu sur des véhicules militaires qui escortaient le préfet du département de Bankilari. 6 gardes nationaux sont tués, 4 autres et un gendarme porté disparu. Le préfet, son chauffeur et son garde-corps eux ont été blessés. 2 véhicules de la garde nationale ont été calcinés. C'est la première fois qu'une autorité administrative locale est ciblée par une attaque qui intervient quelques jours seulement après celle intervenue dans la même zone le lundi dernier et qui a coûté la vie à 3 policiers au niveau du poste frontalier de Petel-Koli. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur cette attaque. La localité de Bankilari est située dans la zone dite des 3 frontières. Elle abrite une des positions de la force conjointe du G5 Sahel. Abdel Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Tripoli accueille ce jeudi une conférence de soutien à la stabilité de la Libye en présence de représentants de nombreux pays étrangers. L'objectif est de consolider le processus de transition à 2 mois d'une élection présidentielle cruciale pour l'avenir du pays. On s'attend à la présence de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Rosemary Di Carlo, du chef de la mission onusienne en Libye, Yann Koubès. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est de son côté attendu à cette conférence internationale. Des représentants de l'Italie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, du Qatar, de l'Algérie, de la Tunisie, du Tchad et du Soudan doivent également y assister, selon l'agence de presse libyenne.
Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame l'arrêt de la violence et du pillage des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Dans une déclaration initiée par le Kenya et adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le Conseil demande que tous les groupes armés cessent immédiatement toutes les formes de violence. C'était lors d'une session ministérielle sur cette région du centre de l'Afrique mercredi. Le Conseil de sécurité exige en outre que les groupes armés se dissolvent immédiatement et définitivement et que leurs membres déposent les armes, ajoute le texte qui souligne la nécessité notamment d'un rétablissement de l'autorité étatique du gouvernement dans l'est de la RDC. Par ailleurs, la plus haute instance de l'ONU condamne la poursuite de l'exploitation et du commerce illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC et dans la région. Ce pillage par les groupes armés et les réseaux criminels qui les soutiennent compromet la paix et le développement durable pour la région des Grands Lacs, estime le Conseil de sécurité. L'exploitation illégale des ressources naturelles est liée au trafic illégal des armes légères qui nourrit et accentue les conflits armés dans cette région, souligne le Conseil.
Au Soudan, les organisateurs de manifestations rivales pro- et antimilitaires ont appelé hier leurs partisans au calme à la veille d'une journée déterminante pour la transition. Le point avec Michel Joseph.
Insistant pour la première fois sur le partenariat entre civils et militaires, le général Abdel Fattah al-Burhan a semblé vouloir rassurer la Britannique Vicky Ford, chargée des affaires africaines. Et réunis au sein d'une coalition appelée les Forces pour la Liberté et le Changement, des civils, partis, rebelles et syndicats sont parvenus à pousser l'armée à démettre le régime d'Omar al-Béchir. Aujourd'hui, une faction des FLC, qui réclame un gouvernement militaire, organise depuis samedi un sit-in devant le palais présidentiel à Khartoum. Une faction dite canal historique des FLC prévoit une autre manifestation aujourd'hui à Khartoum et dans les autres villes pour réclamer la poursuite de la transition censée mener à des élections fin 2023 pour un gouvernement civil. Les deux camps ont tenu hier des conférences de presse simultanées. Le chef du mouvement de libération du Soudan, Mini Minawi, désormais gouverneur du Darfour, l'un des chefs des pro-armées, a appelé à faire du 21 octobre une journée de tolérance. Ali Ammar, porte-parole des comités de résistance, a annoncé le choix d'un itinéraire pour la manifestation pro-civile afin d'éviter les heurts. L'ambassade américaine à Khartoum dit encourager au pacifisme et a rappelé le soutien ferme des États-Unis à la transition démocratique. Le diplomate américain Peyton Knopf a rencontré hier le premier ministre Abdallah Hamdok qui redit vouloir aller au bout des objectifs de la révolution.
Une personne a été tuée et au moins 80 autres ont été blessés hier en Eswatini, dernière monarchie absolue d'Afrique, lors d'une manifestation anti-régime violemment réprimée par les autorités, a indiqué le syndicat des fonctionnaires. Depuis plusieurs semaines, ce pays est secoué par une vague de protestations pour réclamer la démocratie.
Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a dénoncé ce mercredi une nouvelle attaque contre son leader. Nelson Chamisa aurait été visé la veille par des tirs alors qu'il se trouvait dans sa voiture après un meeting politique. Les détails avec Mohamedou Humfa.
Selon Tendai Biti, vice-président de l'Alliance du Mouvement pour le Changement Démocratique, MDC Alliance, qui a organisé une conférence de presse à Harare, une embuscade a été montée, des coups de feu ont été tirés et une balle est venue se loger dans le siège arrière gauche où Nelson Chamisa est normalement assis. Avant l'attaque, une douzaine de voitures sans plaque ont suivi le convoi de M. Chamisa qui quittait la ville de Mutare, a-t-il ajouté. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, est derrière ces attaques. Ils passent à la vitesse supérieure. Ils font monter la pression parce qu'ils ont peur des élections générales de 2023, a fustigé M. Biti. Les tensions politiques ont augmenté au Zimbabwe avant les élections qui désigneront un nouveau président pour le pays dans 2 ans. Nelson Chamisa devrait s'opposer pour la seconde fois à l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. La semaine dernière, le MDC Alliance avait dénoncé une précédente attaque. Le convoi de M. Chamisa avait été bombardé de pierres dans la ville de Masvingo au sud du pays. Le mois dernier, 19 personnes, dont 10 journalistes, ont été arrêtées lors d'une manifestation devant la commission électorale à Harare.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche a dévoilé hier son plan pour commencer dès le mois prochain la vaccination contre le COVID-19 de 28 millions d'enfants américains âgés de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer, une fois le feu vert donné par les autorités sanitaires.
Par ailleurs, pour la dose de rappel, l'Agence américaine des médicaments a autorisé mercredi l'injection d'un vaccin anti-Covid différent de celui utilisé initialement pour l'immunisation, une pratique déjà possible dans de nombreux pays.
La Russie, la Chine et l'Iran ont appelé hier à travailler avec les talibans en Afghanistan pour assurer la stabilité de la région, tout en exhortant ces derniers à mettre en place des politiques modérées. John Lennon.
Inquiet de l'activité d'organisations terroristes interdites en Afghanistan, les partis ont réaffirmé leur volonté de continuer à promouvoir la sécurité dans le pays pour contribuer à la stabilité régionale. Une délégation des talibans était également mercredi à Moscou pour les premiers pourparlers internationaux sur le territoire russe depuis leur arrivée au pouvoir en août dernier. 10 pays au total ont pris part à ces négociations, notamment la Russie, la Chine, l'Iran, le Pakistan et l'Inde, mais pas les États-Unis. Ils ont appelé les talibans à mettre en place des politiques modérées tant au plan intérieur qu'extérieur. Les participants ont par ailleurs demandé une initiative collective pour organiser avec les Nations Unies une conférence internationale de donateurs pour l'Afghanistan, déclarant notamment que le fardeau de la reconstruction économique et du développement de l'Afghanistan devait être porté par ceux qui étaient dans le pays ces 20 dernières années. Une allusion claire aux forces américaines.
Des scientifiques américains ont réussi à faire fonctionner sur un humain le rein d'un porc génétiquement modifié pour que l'organe ne soit pas rejeté par l'organisme humain. Assurez-moi, une percée qui représente un espoir pour de nombreuses personnes en attente d'une transplantation.
Le rein n'a pas été à proprement parler implanté à l'intérieur d'un corps humain, mais a été connecté au vaisseau sanguin d'un patient en état de mort cérébrale dont la famille avait autorisé l'expérimentation au niveau du haut de sa jambe. L'opération a duré environ 2 heures.
Si le succès se confirme, les cochons pourraient bien un jour être élevés dans le but de fournir des organes comme des reins, mais aussi des poumons, les cœurs, aux humains qui en ont besoin.
La Minute Éco, John Linden.
La Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement, vient d'accorder un financement murabaha d'une valeur de 100 millions d'euros à la Senelec, la Société nationale sénégalaise d'électricité. Selon Financial Afrique, cette ligne est destinée à couvrir 19% des besoins de financement de cette entreprise pour l'achat des produits pétroliers raffinés, la transmission et la distribution d'électricité à travers le pays. La dette des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est restée relativement stable au deuxième trimestre 2021. Selon Financial Afrique, le Cameroun porte le maillot jaune avec à fin juin une dette de 10 687 milliards de francs CFA. Dans la même période, l'encours de la dette publique du Gabon était estimé à 6 539 milliards de francs CFA. Au Tchad, la dette extérieure est passée de 852 milliards à 840 milliards de francs CFA.
Merci John. Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La Fédération internationale de football va tenir un sommet le 20 décembre pour étudier sa proposition controversée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, pour laquelle elle milite depuis plusieurs semaines, a annoncé l'instance. Les 211 fédérations nationales membres seront réunies en visioconférence pour discuter de l'avenir du football après avoir été informées en détail du processus de consultation en cours sur le sujet, explique la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial qui a lancé à partir de mai 2021 une étude de faisabilité sur la tenue du mondial tous les 2 ans, écoute toutes les opinions dans un processus de consultation inclusif et exhaustif, assure son président Gianni Infantino, cité dans le communiqué. Les Émirats arabes unis accueilleront la prochaine Coupe du monde des clubs de football début 2022. L'annonce a été faite par le président de la FIFA. Il n'y a pas encore de date précise, a déclaré Gianni Infantino à l'issue d'une réunion du Conseil de la FIFA, alors que l'épreuve devait avoir lieu au Japon. Le 9 septembre, la Fédération japonaise de football a annoncé que le Japon renonçait, en raison de la crise sanitaire, à l'accueillir. La compétition réunit les vainqueurs de chacune des meilleures compétitions de clubs continentales ainsi qu'un représentant du pays hôte. Le mondial de clubs, qui se joue habituellement en décembre, a été repoussé pour la 2e année consécutive. Le Bayern Munich a empoché la dernière édition qui a eu lieu au Qatar. Et puis, les derniers matchs de la 3e journée de la Ligue des Champions se sont disputés hier en Europe. Après 2 claques inaugurales contre le Bayern Munich 3-0 et Benfica 3-0, le FC Barcelone a glané sa première victoire face au Dynamo Kiev 1-0, 4-0 pour Chelsea devant Malmö. Même score en faveur du Bayern Munich face au Benfica, 3-2 pour Manchester United
face à l'Atalanta Bergame.
Merci Yakuba. Pour terminer, quelques résultats NBA. Philadelphie a battu la Nouvelle-Orléans 117 à 97. Charlotte a battu Indiana 123 à 122. New York Knicks bat Boston 138 à 134. Washington bat Toronto 98 à 83. Memphis bat Cleveland 132 à 121 et San Antonio bat Orlando 123 à 97. De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, 6 ans après les violences occasionnées lors du référendum en vue de changer la constitution, les victimes qui réclament justice n'ont jamais été indemnisées. Nombreux ont vu leurs plaintes ne pas aboutir auprès du tribunal de Brazzaville. Les organisations de la société civile appellent à la justice. Explication de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
À l'époque, l'opposition avait appelé à voter non pour empêcher un troisième mandat au président Denis Sassou Nguesso. Quelques mois avant ce référendum, l'opposant Clément Mirassa avait tenu une réunion chez lui. 6 ans après, il en garde d'amers souvenirs.
J'étais attaqué le 4 novembre 2014 chez moi. Cette attaque avait donné lieu à 35 arrestations. Il y a eu des blessures, il y a eu des violences. Moi-même, j'étais recherché pour être tué. Moi-même, on a pillé ma maison, etc. Nous avons porté plainte et il y a eu une ordonnance de non-lieu. On dit que la justice au Congo est indépendante, mais on n'a rien vu venir jusqu'à présent.
Chris Dongui n'était encore qu'un jeune étudiant. Il a fait la prison pour son engagement à ne pas changer de constitution.
On parlait de jeunesse à cette époque, il fallait monter au créneau pour dire à nos aînés que le problème, c'était pas le changement de la constitution. Le problème que nous avons, c'était des hommes. Malheureusement, j'ai été incarcéré et durant un bon moment où j'ai subi jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont responsables de reconnaître ces faits, puisque jusqu'à aujourd'hui, la plaie y est, parce que nous avons de ces parents qui ne sachent ni leurs enfants s'ils sont vivants ou ils sont morts.
Dans les quartiers sud de Brazzaville, sur la grande avenue de Louia, l'opposant Paulin Makaya avait organisé une marche pour empêcher le référendum. Il se retrouvera plus tard en prison. 3 ans ferme pour avoir tenu une activité interdite. Georges Goma Fouti, le porte-parole de son parti Uni pour le Congo, appelle à la justice.
C'était pas une marche pour casser, mais c'était une marche pacifique. 6 ans après, non, rien n'a été fait. Paulin Makaya, qui a une plainte parce que sa résidence avait été vandalisée, pillée par les éléments de la force publique. Et jusqu'à aujourd'hui, la plainte est égarée là-bas et les victimes également.
C'est autour d'une discussion que certaines victimes ou leurs parents, les leaders politiques et les défenseurs des droits de l'homme ont pris l'engagement de demander aux autorités de faire justice aux victimes du référendum concessionnel de 2015. Trésor Nzila Kende du Centre pour l'Action et le Développement en est le principal organisateur.
Pour éviter que cette situation ne tombe dans l'oubli, nous avons pensé initier cette initiative pour relancer le débat et rappeler aux autorités qu'il y a les blessures qui ont été occasionnées pendant cette répression sanglante ne seront jamais oubliées tant que le gouvernement ne remplira jamais l'obligation de justice et de vérité.
Beaucoup des victimes vivent dans la peur et n'osent pas réclamer justice. Le gouvernement avait pourtant accepté devant la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme de mettre en place une commission d'enquête indépendante. 6 ans après, rien n'est fait. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, c'était hier le premier anniversaire, jour pour jour, des manifestations contre les abus d'une unité spéciale de la police. Dans plusieurs villes du pays, face à la pression populaire, les autorités avaient démantelé l'unité et promis de réformer la police. Mais la jeunesse, peu convaincue par les promesses du gouvernement, a continué sa contestation. Réaction des Nigérians dans ce reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
En octobre 2020, plusieurs milliers de jeunes Nigérians sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour demander la dissolution d'une unité spéciale de la police connue sous le nom de SAS. Elle avait été mise sur pied pour lutter contre les vols à main armée. Les manifestants réclamaient la fin des brutalités policières de l'unité SAS, accusées de meurtre, rackets et arrestations arbitraires. Un an après, quel bilan ? Faites moi Diji dirige le Centre pour la transparence et la bonne gouvernance.
Malheureusement, l'attitude des agents de la police nigériane envers les populations n'a pas changé. Nous voyons toujours des cas de brutalité policière, des cas d'intimidation des citoyens dans tout le pays. Malgré aussi la dissolution de SARS, nous voyons toujours certains de leurs bureaux en pleine opération.
Les autorités nigériennes avaient constitué des commissions dans presque tous les États touchés par ces manifestations pour enquêter sur les abus des agents SAS contre les populations, l'une des demandes des jeunes manifestants. Le président du groupe des Nigériens concernés, Deji Adeyanju, ne cache pas sa déception.
Toutes les commissions, exception faite à celle de Lagos qui a effectué 10% de son travail. Toutes les autres n'ont pas fonctionné. Celle d'Abuja a été suspendue. C'est lorsqu'ils ont appris que nous allons manifester pour marquer cette journée qu'ils ont repris les travaux. Donc vous comprenez le manque de sincérité du gouvernement. L'attitude du président ne montre pas aussi qu'il est déterminé à faire des réformes de la police.
Le 20 octobre 2020, les manifs ont pris une tournure meurtrière lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants au péage de Lekki, à Lagos. Le gouvernement a réaffirmé mercredi que les militaires n'ont pas tiré sur les manifestants et parle de massacre fantôme. Amnesty International a aussi réaffirmé qu'au moins 12 manifestants ont été tués. Pour Hamza Laval, un activiste, les demandes des jeunes sont jusqu'ici restées lettres mortes.
En première demande, de former ces gens, les équiper et leur donner des bons salaires afin qu'ils soient fiers de leur travail. Donc SARS, ou bien la nouvelle unité qui a remplacé SARS, c'est toujours la même chose.
Dans les rues de la capitale fédérale Abuja, les habitants réagissent.
Ils ont un peu changé la manière avec laquelle ils conduisaient leurs opérations. Ils sont devenus un peu plus conscients maintenant. Des cas de brutalité ont diminué et l'absence de SARS dans les rues a un impact sur les gens.
Pour marquer cet anniversaire, la police a interdit tout rassemblement, craignant une escalade de la situation. À Lagos, la capitale économique, la police a dispersé à l'aide des gaz lacrymogènes des jeunes qui ont tenté d'organiser une procession au péage de Lekki. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Au Burkina Faso, le FESPACO qui a débuté samedi dernier se poursuit jusqu'à samedi prochain. La capitale burkinabé vivre au rythme du cinéma africain. Plusieurs centaines de films seront projetés. Cependant, l'engouement autour de l'événement reste mitigé à cause de la situation sanitaire, mais aussi de l'insécurité que vit le pays depuis des années. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, l'heure est à la célébration du cinéma africain. Plusieurs activités se tiennent lors de cette 27e édition du plus grand festival de cinéma en Afrique. Des projections, des colloques, une rue marchande, un marché international et bien d'autres. Cependant, cette année, le festival suscite peu d'engouement au sein du public et ce, pour diverses raisons. L'insécurité, le coronavirus. Bertil est une Ouagalaise.
Les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore allée au FESPACO, cela s'explique par le fait qu'il y a trop de monde actuellement au FESPACO sur les trois sites dont j'ai eu à faire un tour. Je ne suis pas rentrée, j'étais de passage et j'ai vu le monde qui est là, la queue qu'on doit faire pour accéder même au lieu. Donc ce n'est déjà pas motivant et vu l'insécurité, le contexte sanitaire, faire la queue, il n'y a pas de mesures barrières et rien et les gens sont sont attroupés pour pouvoir rentrer sur les lieux même en question.
Abdul Karim Ouedraogo est commerçant.
C'est le temps. Mm-hmm. Et puis l'expiration de Fespaco ne me touche pas comme ça. Tu as bien dévancé. Mm-hmm. C'est à cause de la sécurité. Donc j'ai peur. Vraiment aussi, ça fait peur. En réalité, ça fait peur. Tant de Burkina Faso avec le terrorisme, là, c'est pas bon.
Alinta Ouedraogo, une journaliste burkinabé.
Je ne suis pas allée au Fespaco parce que j'ai beaucoup d'engagement professionnel ces temps-ci. Malheureusement, mon programme, mes horaires n'ont pas été aménagés au boulot pour me permettre d'y aller. Voilà.
Cette dame fait partie des rares personnes rencontrées à se rendre à une activité du Fespaco. Ange Tapsoba est réalisatrice dans une télévision privée.
J'ai été au Fespaco, je suis allée voir des films. On remarque nettement qu'il y a moins d'affluence que les autres années au niveau des salles. Et même au niveau de la rue marchande. Bon, moi je pense que les mesures ont été prises, hein, avec le port du cache-nez et la désinfection des mains. Il y avait un service de santé aussi qui était là à la porte. Depuis qu'ils ont annoncé le Fespaco, on voit déjà comment les hommes de tenue s'arrangent dans la ville. Dans tous les carrefours, il y a au moins 4 à 5 policiers. Au Fespaco, la sécurité est encore plus renforcée. Il y a les fouilles, ils sillonnent les coins, ils voient. Bon, moi je pense pas qu'il peut y avoir attaque en ce moment-là.
Une chose est sûre, le Fespaco 2021 suscite moins d'engouement. Le Fespaco qui a l'habitude d'accueillir quelques 200 000 festivaliers se tient dans un double contexte difficile, marqué par le coronavirus, mais aussi l'insécurité, à travers des attentats terroristes qui se poursuivent, même le temps du festival. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nombreux Kenyans, principalement des femmes qui sont rendues au Moyen-Orient pour travailler, disent avoir subi des abus de la part de leurs employeurs. L'organisation Heart Kenya, qui lutte contre la traite des êtres humains, a facilité le retour de plus de 700 survivants du travail forcé depuis 2010. Un reportage de Brenda Moulinia à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
Esmurunga, qui avait travaillé au Moyen-Orient, a ouvert un petit magasin il y a 6 mois dans la périphérie de Nairobi qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait quitté son pays en 2019 pour travailler en Arabie Saoudite, destination populaire pour ceux qui ne parviennent pas à trouver un emploi. Ce qu'elle a vécu là-bas ne correspondait en rien à ce qu'on lui avait promis avant son départ.
Le patron est venu et m'a dit que je devrais faire chaque corvée puisque j'avais accepté de venir dans son pays. Il a dit que je n'aurais pas le droit de me plaindre car il avait payé très cher pour m'acheter. J'étais donc leur propriété.
Madame Murunga a subi des violences psychologiques et physiques pendant ses 2 années de service en Arabie Saoudite. Elle a été secourue par l'organisation Heart Kenya, qui accueille des survivants du travail forcé et leur offre une formation et un suivi pour les aider à reconstruire leur vie. Merci à Tieno, responsable de la sensibilisation de l'organisation, explique que les survivants, dont 80% sont des femmes, souffrent de traumatismes.
Lorsqu'un survivant vient à nous, il est bouleversé. Certains d'entre eux semblent maltraités. Ils ne savent pas quoi faire et par où commencer. Ils n'ont pas de maison et ne veulent pas rentrer chez eux parce que tout le monde sait qu'ils sont partis à l'étranger. Donc on s'attend à ce qu'ils reviennent avec quelque chose.
Le syndicat des travailleurs domestiques et assimilés du Kenya conseille à ceux qui cherchent du travail comme main-d'œuvre non qualifiée à l'étranger d'être vigilants. Albert Njeru, secrétaire général du CUDEIA.
Recherchez des informations appropriées, consultez largement et pour pouvoir faire les choses correctement, n'allez pas là où vous pouvez voir des points noirs.
Fes Murunga se dit reconnaissante de pouvoir vivre loin des abus qu'elle a subis à l'étranger grâce à Heart Kenya, qui apporte un soutien aux victimes d'exploitation à l'étranger et à l'intérieur du pays afin de guider les survivants vers la guérison et la réadaptation.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Nanit Talani, Michel Joseph à la mise en onde et Nicolas Ivanov à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.